Merci pour toutes ces informations. On se retrouve pour reprendre notre voyage au cœur de 7 jours d'événements avec la rédaction.
Une semaine d'actualité.
Dei Fatoukan est notre invitée. Elle vient d'écrire un roman, Le malheur de vivre, chez L'Harmattan. Dans quelques minutes, nous partirons pour l'Afrique avec des escales au Sénégal, notamment. Rendez-vous également avec vos messages.
RFI.
Mais d'abord, l'actualité française en quelques minutes et un rapport accablant pour la SNCF, rapport d'experts demandé par la justice sur la catastrophe de Brétigny qui avait fait 7 morts dans un déraillement il y a juste un an, Simon Rosé.
200 anomalies sur l'ensemble de la portion de voie ferrée concernée lors de l'accident de Brétigny. C'est le constat dressé par les experts mandatés par la justice. Pire, selon eux, ces anomalies étaient connues par la SNCF et ses agents sans pour autant que quelque chose soit fait pour y remédier. Ils estiment que c'est tout simplement l'usure du réseau qui est la cause de l'accident et font plusieurs recommandations à la SNCF. Abaisser à 100 km/h la vitesse des trains à l'approche de la gare de Brétigny contre 150 actuellement et surtout faire vérifier tous les ans les éclisses, ces sortes d'agrafes métalliques qui servent à raccorder des rails directement pointés du doigt dans la catastrophe de Brétigny. Elles ne sont pour l'instant vérifiées que tous les 3 ans. La gare de Brétigny ne serait d'ailleurs pas la seule concernée par ces problèmes de maintenance. Les experts judiciaires mentionnent également la gare de Noisy-le-Sec en banlieue parisienne. Elle serait concernée par des anomalies similaires. Ce rapport n'est pas le premier à mettre en cause les règles de maintenance de la SNCF. En janvier, déjà, le bureau d'enquête sur les accidents de transport terrestre arrivait aux mêmes conclusions, des conclusions que la SNCF a vivement démenties, contestant formellement tout délabrement de son réseau.
Du rififi à l'UMP, suite, mardi soir, le bureau politique de ce parti a rendu public le montant exact de sa dette, 74,5 millions d'euros, une dette qui résulte d'une certaine idée de la gestion de son patron récemment écarté, Jean-François Copé, Pierre Firsion.
Certains n'ont-ils pas la volonté de faire imploser l'UMP? Cette question, le député Axel Poniatowski se la pose depuis plusieurs jours, depuis que le grand déballage a commencé. Ainsi, depuis dimanche, pas un jour ne se passe sans que des révélations n'apparaissent sur le train de vie de l'UMP, sous l'ère Copé. Billets d'avion de l'épouse du président du parti, notes de téléphone de Rachida Dati, tout y passe. La présidence Copé est clairement dans l'œil du cyclone, à tel point que le député maire de Meaux est sorti de son silence mercredi pour dénoncer, je cite, des vengeances, des règlements de compte personnels qui rendent l'UMP inaudible. Dans l'entourage de Jean-François Copé, on soupçonne ouvertement François Fillon d'être à l'origine de ces fuites. La guerre Copé-Fillon, on en a ras-le-bol, lance excédé ce député sarkozyste. Axel Poniatowski se dit, lui, atterré par ce spectacle et par l'image catastrophique qui est donnée. La situation peut-elle ou va-t-elle s'apaiser rapidement? Pas avant l'élection du président de l'UMP, prédit-il, une élection qui n'aura lieu que fin novembre.
Une semaine d'actualité en France, mais pas seulement. Sachez d'abord que l'enquête des deux juges français sur le crash de l'avion du président rwandais Juvénal Habyarimana en 1994 est terminée. Notez aussi la condamnation à 4 ans de prison ferme par le tribunal correctionnel de Paris d'un candidat français au djihad arrêté en novembre 2012 au Mali, David Thompson.
Seule une dizaine de Français ont tenté de rejoindre le Nord Mali sous contrôle djihadiste. En 2012, deux frères d'une vingtaine d'années d'origine sénégalaise venus de la région du Havre y étaient parvenus. Tous deux ont disparu depuis l'intervention militaire française Serval. L'un d'eux, Abderrahmane, avait posté des vidéos sur Internet pour inciter d'autres Français à le rejoindre à Tombouctou. Mais très peu ont tenté l'expérience. Pour Ibrahim Ouattara, 26 ans, ce fut un échec, arrêté à Sévaré au centre du Mali en novembre 2012, juste avant de rejoindre Acmi. Ce Français d'origine malienne, né à Aubervilliers, a été condamné hier à 4 ans de prison par la justice française. Son complice, Khalifa Dramé, écope de 30 mois pour lui avoir confié son passeport, lui permettant ainsi de voyager malgré son contrôle judiciaire dans une autre affaire de djihadisme. D'autres Français sont toujours détenus en France en attente de leur procès. Mais pour les djihadistes français, l'attraction du Mali n'a jamais été aussi grande que celle de la Syrie aujourd'hui. Zone difficile d'accès, sans aucune dimension prophétique, le Mali est beaucoup plus compliqué à rejoindre et les groupes djihadistes sahéliens sont plus difficiles à contacter et à intégrer.
Allez, un peu de tendresse dans ce monde brutal et puisque c'est l'été, parlons chanson d'un grand auteur de la chanson populaire française, Pierre Perret, qui fête ses 58 ans de carrière, Constance Bénard.
58 ans de carrière et l'ami Pierrot continue à exercer sa plume. En avril dernier, il a sorti l'album Drôle de poésie, une poésie caractéristique de ses chansons des plus farfelues comme le célèbre Zizi ou plus engagé comme Lily, écrite en 1977.
On la trouvait plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily. Dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris.
Des airs au programme des écoles dont certaines portent son nom. Pour ses chansons engagées contre le racisme et l'antisémitisme, l'enfant du Sud a reçu 2 prix de la LICRA, ceux dont il est le plus fier. Mais dans le grenier où il conserve ses manuscrits, les textes graves côtoient les airs plus légers comme les jolies colonies de vacances, repris en chœur par toutes les générations. Cette écriture spontanée et toujours émouvante, il la doit à sa devise, écrire ce qui lui passe par la tête au détriment des bien-pensants, comme il dit. En 1998, il chante « La bête est revenue » contre la montée de l'extrême droite comme un avertissement. Alors pour Pierre, peu importe l'âge, la retraite, ce sera pour plus tard. L'amoureux des mots prépare déjà 2 pièces de théâtre et un almanach pour l'an prochain.
Sait-on pourquoi un matin, cette bête s'est réveillée au milieu de pantins, qu'elle a tous émerveillé. En proclamant partout haut et fort, nous mettrons l'étranger dehors.
Une semaine d'actualité où on parle d'amour et où on écoute des chansons, ça ressemble à l'été en quelque sorte. Notre invité est toujours Ndeye Fatoukane, qui vient d'écrire Le Malheur de Vivre, un roman publié chez L'Harmattan. On va commencer avec Pierre Perret. Vous me disiez, non, je ne le connais pas, mais finalement, les chansons,
oui,
vous les connaissez par cœur.
Surtout, il parle de la colonie de vacances. On a eu à les entendre à la radio à Dakar, qui a bercé notre enfance. Donc, c'est vrai qu'il est pas de ma génération. Oui. Donc, je connais, ouais.
Alors, les malheurs de l'UMP vous inspirent aussi ?
Il m'inspire, oui, non, mais Sarkozy, on a vu qu'il a été récemment mis en examen.
Il a quelques problèmes avec quelques
juges. C'est la première fois qu'un chef d'État français est mis en examen. Donc, c'est regrettable. C'est vrai que Sarkozy n'était pas très aimé au Sénégal, notamment avec son célèbre discours de Dakar.
Bien sûr.
Qui disait que l'Afrique n'est pas rentrée dans l'histoire. Et on a vu que tout le monde se réjouissait.
Ça vous a choqué personnellement,
ça m'a choqué, ouais. Parce que même s'il n'a pas été très aimé, je ne me réjouis pas de ce qui lui arrive. Mais au Sénégal, notamment, on a vu que les Sénégalais, lui, étaient contents de ce qui lui arrivait, que c'était bien fait pour lui, que le karma existait. Mais je pense que c'est vraiment regrettable qu'il en arrive là après avoir été président de l'État français. Mais j'espère qu'il justifiera ses actes et qu'il trouvera une solution.
Est-ce que la montée de ce qu'on appelle l'islamisme dans la bande sahélienne et aussi en Afrique de l'Ouest vous inquiète ? Oui, j'imagine.
Oui, ça m'inquiète, ouais. Parce qu'on a vu ce qui s'est passé au Mali avec les djihadistes et on voit des jeunes désœuvrés qui leur proposent une poignée d'argent, qui risquent leur vie. Et je pense que c'est vraiment regrettable qu'on n'arrive pas à canaliser ce phénomène-là. Parce qu'on voit des jeunes qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont pas reçu de formation et qui suivent les djihadistes et qui s'engagent dans des causes vraiment perdues d'avance parce qu'ils se font tuer, leurs familles sont désespérées. Et je pense qu'on n'est pas à l'abri au Sénégal parce que le Mali et le Sénégal sont séparés par une mince frontière. On devrait vraiment trouver des solutions pour canaliser tout ça et tout réside en fait dans l'instruction, dans l'éducation. On devrait vraiment sensibiliser les jeunes pour qu'ils ne s'engagent pas dans n'importe quoi, qu'ils ne perdent pas leur vie pour une cause qui me semble vraiment qui n'en vaut pas la peine.
Une semaine d'actualité.
En Afrique, figurez-vous, Ndeye Fatoukane est précisément au Sénégal. Le Sénégal qui a un nouveau Premier ministre, il s'appelle Mohamed Dion. Il a été nommé dimanche par le président Macky Sall. Il succède à Aminata Touré, limogé, à la fin de la semaine dernière, après la défaite du parti au pouvoir dans les élections locales du 29 juin dernier. Correspondance de Karine Franck.
Il est le fidèle d'entre les fidèles. Ingénieur en informatique de formation, diplomate de carrière, Mohamed Dion a été le directeur de cabinet de Macky Sall quand Macky Sall était Premier ministre, puis président de l'Assemblée nationale. Il est ensuite parti à l'ONUDI, l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, où il a notamment dirigé le département Afrique. Le président Macky Sall l'a fait revenir à Dakar il y a quelques mois pour lui confier le suivi du tout nouveau Plan Sénégal émergent, le PSE, qui est est un peu le plan Marshall pour faire décoller l'économie sénégalaise. Mohamed Dione est donc choisi pour sa maîtrise des questions économiques, sa rigueur et sa proximité avec le chef de l'État. Ces deux hommes, quand ils croisent leurs regards, ils se comprennent, explique l'un des proches du nouveau Premier ministre, une personnalité très différente d'Aminata Touré. Ce n'est pas un homme de fer, précise ce proche. Il sait se montrer diplomate, conciliateur, mais c'est un homme de décision.
D'ailleurs, Fatou Khan, écoutez les réactions, les attentes de ces quelques Dakarois. Vous en êtes interrogé lundi par Karine Franck.
Comme c'est un nouveau Premier ministre, il doit se mettre au boulot bon. On espère bien que ça va aller.
Je le souhaite bon vent.
Bon, moi j'espère toujours qu'ils peuvent faire quelque chose de plus que les autres. Sinon, il n'y aurait pas remaniement.
Pour moi, Macky Sall, il ne comprend rien. Il ne comprend rien. Au moment où les étudiants sont là, ils sont en train de faire des grèves, il n'y a pas de boulot pour les jeunes. On voit que le président, il est insensible devant tout cela, quoi. Parce que c'est les mêmes. Il n'a mis que ses parents, ses frères. Ils sont partis, la paire. Ils ne sont pas là pour le peuple, mais ils sont là que pour eux.
Franchement, lui, il est venu en tant que sauveteur. Il est venu à une étape où le Sénégal avait besoin de changement. Donc, il est là pour régler les problèmes, donc pas faire des remaniements ministériels tous les quatre matins.
Trois premiers ministres en l'espace de 2 ans, Macky Sall est en train de tâtonner. Je suis désolé, mais ça m'inquiète.
Ben, il a dit au travail. Espérons qu'ils vont tous s'y mettre. Parce qu'on est tous englobés dans un traquenard qui est la politique. Quand on dit que tout est urgent ici, la survie, l'alimentation, le transport, tout est urgent. Donc il faut vraiment qu'ils laissent tomber la politique et qu'ils se mettent au travail rapidement, illico presto.
Alors je vais continuer le micro-trottoir qu'a commencé Karine Franck à Dakar. Ses réactions, en vous demandant une réaction, Daïf Fatou Khan, à cette nomination.
Je suis du même avis que les Dakarois qu'on a interrogés. Parce que en 2 ans, le président Macky Sall a eu 3 premiers ministres, ce qui est assez inquiétant. Tout le monde, il est face à une demande sociale de tous bords. Les Sénégalais sont impatients, ne peuvent plus attendre parce que l'état de grâce, il me semble qu'il est terminé. Donc, on espère que le nouveau Premier ministre, Mohamed Dione, qui a eu à diriger le plan Sénégal émergent, comprendra les attentes des Sénégalais et qu'il trouvera vraiment des solutions à toutes ces attentes-là.
Vous parlez d'attentes, Fatou. Quelle est la première, j'imagine, c'est l'économie,
l'économie,
chômage,
la santé, le transport.
Le transport.
Surtout le transport, parce qu'on a une société de gestion du transport urbain, Dakar Demdik, qui gère une partie du transport dakarois. Et on en a une autre, le transport informel, les cars rapides, qui sont un peu les terres de ferraille. Mais surtout le transport, c'est une demande vraiment importante. Et on doit trouver une solution pour apporter plus de véhicules qui pourront desservir toute la zone de Dakar et sa banlieue. Donc, on espère que la nouvelle équipe gouvernementale mise en place par Mohamed Dione se mettra au travail et qu'on arrêtera un peu de faire de la politique politicienne. Parce que, avec les élections locales, le président Macky Sall avait dit que tout responsable qui ne gagnerait pas dans sa base serait limogé. Et c'est ce qui a été arrivé à Madame Touré. Et vraiment, il faut qu'on arrête tous les discours et qu'on se mette vraiment au travail parce que les Sénégalais sont fatigués d'attendre et qu'ils vraiment ils demandent des actions.
Et parmi les problèmes, il y a les questions d'électricité aussi,
oui.
D'alimentation d'électricité.
Les délestages. Les délestages, encore. Bien sûr. Et toujours. Oui. Parce que du temps du magistère de Abdoulaye Wade, il y avait des délestages. Et là, il y en a, j'ai l'impression qu'il y en a encore plus. Donc cette question de l'énergie doit vraiment être réglée. Elle est vraiment urgente.
Et ce livre que j'ai sous les yeux, Le malheur de vivre, que je recommande, publié chez L'Harmattan, ce roman, vous l'avez écrit à Dakar, à Paris, ou
si
entre les deux
écrit, oui. Oui. Je l'ai écrit là.
Et pourquoi il fallait l'écrire à Paris pour mieux parler de Dakar avec la distance?
Non, pourtant j'aurais pu l'écrire à Dakar, mais comme j'étais là, j'ai mis à profit une période de 6 mois pour l'écrire, mais j'aurais tout à fait bien pu l'écrire à Dakar.
Et comment a-t-on apprécié ce livre, ce roman à Dakar?
À Dakar, on va dire qu'il a été vraiment bien apprécié. J'ai eu affaire à toutes les émissions de télé, vraiment une grosse couverture médiatique et je pense qu'il a été très bien accueilli parce qu'en fait dans la littérature sénégalaise il n'y a pas de jeune génération. Toutes les auteurs sénégalaises qu'on connaît sont de la première génération d'écrivains et je pense que c'est bien qu'on ait un nouveau souffle dans l'écriture sénégalaise. C'est ce qu'on a.
La barre n'est pas placée
haut.
Hein. Les anciens ont eu un talent remarquable.
Donc on espère que j'arriverai à ce niveau, pourquoi pas.
C'est tout ce que je vous souhaite.
Merci.
Pour réagir à l'actualité, semaine.actu@rfi.fr.
Notre adresse électronique, abusez-en, écrivez-nous, de plus en plus nombreux. Et merci aussi pour vos messages très nombreux à la page Une Semaine d'Actu de Facebook. Un bonjour aujourd'hui à Lassina, à Abidjan, à Israël Moussa, à Amadou Diawara. Bonjour à Ibrahima en Guinée, en colère contre l'injustice mondiale à propos des Palestiniens, écrit-il. Une honte, écrit lui Diapali à Dakar. Bonjour à Siaka Sidiri en Guinée. Il voudrait que l'on s'intéresse moins à la Coupe du Monde et plus à la situation à Gaza aussi. Bonjour à Mahamat Njamena et à Mamadou Traoré à Ouagadougou. Il se reconnaîtra.
7 jours en Afrique.
Suite d'une semaine d'actualité d'Aïe Fatou Khan, arrêtons-nous un instant sur les objectifs du millénaire en matière de développement fixés par l'ONU en 2000. Le rapport 2014 vient de sortir pour faire un point, un nouveau bilan qui n'est guère optimiste. Adrien de Calan.
L'Afrique subsaharienne apparaît bien isolée dans le rapport de l'ONU publié lundi. C'est la seule région du monde qui voit augmenter régulièrement l'extrême pauvreté sur son sol. 414 millions d'Africains y vivent encore avec moins de 1,25$ par jour, quand ils n'étaient que 290 millions en 1990. La faim, elle, a tendance à reculer, mais la sous-alimentation progresse pour certaines catégories comme les jeunes enfants. Autre point noir, l'aide publique au développement. Bien qu'elle atteigne des chiffres records, elle s'est déplacée et bénéficie moins aux pays les plus pauvres et qui en ont le plus besoin. Le rapport insiste tout de même sur certains progrès, parmi eux la scolarisation au primaire, les bons résultats enregistrés en matière de santé, de paludisme ou de tuberculose, grâce aux mobilisations menées depuis 15 ans. Mais les progrès réalisés ne permettront pas d'atteindre les objectifs du millénaire à la date butoir fixée en 2015. L'ONU explique cet échec par la croissance démographique, les conflits qui meurtrissent régulièrement le continent et la diminution de l'aide internationale qui de plus en plus se tourne vers les pays émergents au potentiel économique particulièrement attractif.
L'actualité africaine, c'est aussi, entre autres, en Somalie, une puissante attaque des milices islamistes Shebab contre le palais présidentiel, notamment mardi, mais le président est absent à ce moment-là. Repartons au Sénégal, Diane Fatou Khan, où en période de Ramadan, ceux qui jeûnent sont plus actifs sur les réseaux sociaux. Notre correspondante à Dakar, Binetta Diane, a rencontré Cherfal, que vous connaissez d'ailleurs. C'est un cyberactiviste, un blogueur, comme vous.
La mise bien soignée, lunettes sur le nez, Cherfal est scotché devant son ordinateur. Comme de nombreux jeunes, il se déconnecte très rarement d'Internet, des réseaux sociaux et de son smartphone. En période de Ramadan, ces outils lui permettent de tuer le temps, mais surtout de taquiner de potentiels cousins à plaisanterie.
J'ai fait un post, je disais que pour nous les Fal, le plus dur dans le Ramadan, c'est les 30 derniers jours. Et donc c'est en même temps une porte ouverte aux Diagne et aux Nian qui sont nos cousins et qui vont venir nous dire, oui, vous les Fal, vous ne savez pas jeûner parce que vous ne faites que manger. Et donc on a quand même une discussion là-dessus, ça crée des liens.
L'année passée, Cherfal avait créé sur Twitter le hashtag Ramadantar, c'est à cause ou grâce au Ramadan. Une manière de montrer avec ironie les nouvelles habitudes des Sénégalais en période de jeûne.
C'est grâce au Ramadan que je suis descendu à 15h parce qu'on fait la journée continue au Sénégal. C'est grâce au Ramadan que j'applique les 5 prières à la lettre. Quand on partage un bureau avec un ami, s'il prend le risque de s'endormir ou de baisser la tête, il est pris en photo et il s'est posé automatiquement sur Twitter. Donc c'est partagé, c'est commenté, ça fait rire.
Et c'est à l'heure de la rupture du jeûne, le Ndogou, que Cherfal est encore plus actif sur Internet. Il veut partager virtuellement ce moment de joie avec les internautes.
À 19h, on sent le réveil. C'est les messages de bon Ndogou, c'est souvent même le plat de dîner qu'on prend en photo et qu'on partage sur son mur pour inviter les autres à venir partager.
Ces échanges n'ont bien sûr pas de frontières. Cherfal partage ainsi son Ramadan avec ses amis de la diaspora.
Alors là, on est parmi les gens de votre génération, Ndaï Fatou Khan, en tout cas dans un domaine qui est le vôtre.
Parce qu'on voit que maintenant, avec le Ramadan, les gens sont de plus en plus connectés. Comme Cherfal l'a dit tout de suite, on a du temps à tuer. Et on voit qu'il y a une sorte d'effervescence autour de l'Internet. On ne mange pas. Le Ramadan est une période d'abstinence, de pénitence, de retour vers le Seigneur. Et avec l'Internet, on voit que le Coran est plus partagé, plus distribué. On est plus à même de comprendre les hadiths qui sont des messages du prophète. Donc avec le Ramadan, et même Google a créé une plateforme spéciale pour le Ramadan où on peut partager, on peut voir les horaires de prière, voir à quelle heure on doit couper le jeûne, on doit le commencer. Et les
gens, ça permet de se donner du courage aussi.
Oui, surtout. Il y a une sorte de cyber solidarité, et on voit que le Ramadan est une période durant laquelle les gens sont ont plus de temps, sont plus connectés, plus reliés, et notamment durant la rupture du jeûne, comme il l'a dit, on poste des photos de plats, de rupture du jeûne, etc. Et ça crée une sorte de solidarité. On ne voit pas les effets du Ramadan.
Alors, il faut préciser, Fatou, que l'Afrique est vraiment connectée. Vous l'avez dit tout à l'heure quand on a commencé l'émission, mais c'est une réalité, hein, c'est une vraie réalité.
Oui. On est très connectés et on voit les opérateurs au Sénégal, notamment Orange, Tigo et Expresso, qui proposent des packs internet, des forfaits pour se connecter sur son smartphone, sa tablette ou son ordinateur. Donc, on est très au fait de ce qui se passe dans le monde, notamment avec l'internet, et la fracture numérique est très, très masse maintenant avec l'Afrique, le Sénégal qui est très connecté, et notamment avec la communauté des blogueurs du Sénégal qui font des ndadjé, des rencontres autour des questions d'internet, des technologies, et donc on n'est plus trop laissé en rade, notamment sur le niveau de technologie.
Alors je rappelle que vous écrivez dans plusieurs webzines sénégalais,
oui.
On peut les citer?
Oui, il y a Sénéweb, la première plateforme sur internet, la première plateforme de internet de sénégalaise, Dakar Actu, L'Héral ou encore le Boy Town, qui est un webzine très jeune. Et notamment les jeunes, avec la voix des jeunes qui s'intéressent à ce qui se passe, qui donnent leur avis. Et j'ai été amenée à faire des chroniques radio dans cette émission-là pour ouvrir l'antenne aux jeunes, pour qu'ils disent ce qu'ils pensent et qu'on se mette à discuter.
Bon, je sais bien qu'il est toujours difficile et impossible, même peu souhaitable de généraliser, mais qu'est-ce qui soucie aujourd'hui les jeunes sénégalais? Quelles sont les questions qui les
notamment la question de l'emploi. Oui. Parce qu'on a une université, une grande université, parce qu'on en a créé d'autres dans les régions, mais l'université Cheikh est la grande université, parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus de bacheliers pour pas assez de place. Donc les écoles privées sont chères et pas accessibles à tout le monde. Donc, et en plus les orientations. On oriente un étudiant en sciences économiques ou en lettres alors qu'il n'a peut-être pas ce profil-là. Donc il faudrait peut-être réfléchir à faire les assises nationales d'éducation ont déjà été faites, mais on devrait plus se pencher sur la question de l'éducation, et parce que les jeunes diplômés, il faut qu'ils s'insère après dans l'administration ou dans le privé. Donc la question de l'éducation, je pense que c'est une question cruciale.
Je suis sûr, Fatou, que l'image qui revient souvent quand on parle de l'Afrique vous énerve. La misère, la pauvreté.
Ouais. Parce qu'en fait, on assiste à un apitoiement sur les questions africaines. Quelle que soit la chaîne sur laquelle on zappe, l'Afrique est endettée, l'Afrique demande l'aide étrangère, il y a des conflits en Afrique. Donc là, je voudrais qu'on arrête de stigmatiser tout le temps le continent africain. Le continent africain est un continent qui bouge. On va
vous en mettre une preuve.
Dans le domaine des technologies, dans le domaine d'éthique, dans le domaine de l'agroalimentaire, dont l'Afrique s'exporte, et il faudrait qu'on arrive à considérer une autre image beaucoup plus positive du continent africain.
Alors, on va terminer cette émission avec votre roman, Le Malheur de Vivre, Fatou. Pourquoi avez-vous inventé ce personnage de Sakina qui veut s'émanciper de ses parents d'origine sénégalaise qui ont gagné beaucoup d'argent en France, quitte à avoir quelques problèmes après?
Oui. En fait, quand j'ai commencé à écrire ce livre, dans ma tête, je savais que ce serait un personnage féminin, parce que je suis une femme, et donc je serais plus à même de transmettre les émotions que je voulais que Sakina soit amenée à ressentir. Notamment, puisqu'elle n'a jamais eu d'amoureux, et c'est une novice en amour. Donc, je voulais créer un personnage qui me ressemblerait un peu, sans pour autant être ma vie que je relate dans le livre. Mais souvent, les émotions et les étapes de sa vie, les rencontres qu'elle sera amenée à avoir. Donc, je voulais créer un personnage dans lequel beaucoup de jeunes filles se reconnaîtraient. Parce qu'au Sénégal, beaucoup de jeunes filles m'ont interpellée. Elles m'ont dit qu'elles se reconnaissaient dans l'histoire de Sakina, qu'elles étaient
Il faut le rappeler,
contents.
Sakina d'origine sénégalaise,
oui,
mais qui vit à Paris,
oui,
et qui, lors d'un voyage au Sénégal,
rencontre
Ousmane, et là, il y a un coup de foudre.
Oui, il y a un coup de foudre, mais elle verra que Ousmane n'est pas l'homme auquel elle s'attendait, qui va la travestir, parce que Ousmane, du moment qu'il saura que Sakina habitait en France, il fera tout pour l'épouser, et il vivra son rêve, celui de venir vivre à Paris.
Oui, mais ça va, bon, on va pas dire la fin, mais ouais, on aurait pu imaginer une fin plus joyeuse.
Oui, mais je voulais en fait créer une fin tragique, parce que quand l'amourette de Sakina a commencé avec Ousmane, les parents n'étaient pas d'accord, et donc c'était un prolongement normal que Sakina ait dit non à ses parents, qu'elle soit obstinée à se marier avec Ousmane, et donc la fin qu'elle a eue était un peu une fin prévisible. Donc pour dire que la parole des parents en Afrique est très sacrée, quand ils te disent non, ça veut dire que forcément on fonce dans le mur.
Ce qui est aussi intéressant dans votre roman, Fatou, c'est qu'on voit quand même le choc de deux cultures.
Oui.
Même s'il s'agit dans les deux cas de Sénégalais ou de personnes d'origine sénégalaise, on sent très bien que si on est Sénégalais vivant à Paris, on n'a plus du tout le même regard, ou presque pas que le regard de Dakar.
Ouais. Parce que quand on est sénégalais, africain et qu'on vit dans l'Hexagone, c'est vrai qu'on se retranche. On voit les événements en plus de lucidité avec un regard nouveau. Quand j'étais au Sénégal, je n'avais pas le même regard que celui que j'ai maintenant. J'ai l'impression qu'il est beaucoup plus conscient, beaucoup plus au fait de certaines choses. Alors qu'on, quand on est en Afrique, on se laisse emporter dans le mouvement et qu'on n'est pas trop, on prend pas conscience des choses telles qu'on les prend conscience quand on change d'environnement.
Mais comment voyez-vous la France quand vous êtes dans la capitale sénégalaise?
J'ai un regard mitigé. D'un côté, je me dis que c'est un peu une terre d'accueil, un pays qui m'a hébergé pendant 6 ou 7 ans, le pays dans lequel j'ai fait une partie de mes études. Mais quand je suis au Sénégal, j'ai conscience que je suis chez moi, que je suis dans le pays de mon enfance, de mon adolescence, là où je peux exploiter mes capacités et les mettre à profit, être au profit de mon pays et de mon continent.
Merci Ndaï Fatou Khan d'être venu nous voir. Votre roman, je le rappelle, s'intitule Le Malheur de vivre. Il est publié chez L'Harmattan et je ne peux que vous souhaiter bon vent.
Merci, merci beaucoup.
Une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Rohanski. Rendez-vous demain pour notre émission dominicale Idées. Nous vous emmènerons au musée des lettres et des manuscrits à Paris pour une réflexion sur la place de l'écrit pendant la Première Guerre mondiale à l'occasion de l'exposition Entre les lignes qui se termine à la fin du mois. Idées chaque dimanche à 15h10 et 16h10. De Paris, nous serons tout l'été là pour vous offrir des émissions qui, je l'espère, vous enrichissent de la manière la plus agréable possible. Je vous rappelle d'autre part que tout à l'heure, vous pourrez retrouver une nouvelle émission à l'occasion du centenaire de la guerre 14-18, justement, chaque semaine, du 5 juillet au 30 août. Sandrine Mercier et Laurence Giordano, entourées d'historiens, retracent des parcours singuliers de héros ordinaires sur RFI, 11h10 hors de Paris, chaque samedi, dans un instant, en quelque sorte. Ça s'appelle Comment 14. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant, un nouveau journal sur RFI.